Oh non, il y a encore le chien des voisins qui fait pipi chez nous. Faut faire quelque chose là.
Bah on va quand même pas clôturer tout le jardin enfin.
Et pourquoi pas ?
Depuis plus de 30 ans, Brico Dépôt s'engage pour votre pouvoir d'achat. Comme avec le panneau Cisco à occultation complète à 27,30€ et en stock. C'est ça un prix dépôt. Brico Dépôt. Voyez plus grand avec nos prix dépôt. Panneau de 180 cm de haut, 180 cm de large et 2,5 cm d'épaisseur. Installation facile par emboîtement, voire conditions sur bricodépôt.fr.
Beurre FM. FM, la rediff.
Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec la journaliste Nathalie André qui est avec nous sur ce plateau pour parler d'Endo Girls. Et dans ce livre, vous avez interrogé des femmes qui souffrent d'endométriose, dont Djienne Abdelila. Bonjour Djienne. Alors, est-ce que vous m'entendez Djienne?
Oui.
Ben écoutez, super. Vous êtes la bienvenue. Les auditeurs de Beurre FM vous connaissent bien puisque vous avez été intervenante dans l'émission de Bilal Nelman. Vous êtes sportive de haut niveau, hein, championne du monde 2015 de grappling et combattante pro de MMA, enseignante à la Sorbonne. Aujourd'hui, vous êtes conférencière et ambassadrice de l'association EndoMind et vous avez fondé la GN Academy. Est-ce qu'on peut dire que vous avez eu la chance, d'une certaine façon, d'avoir été diagnostiqué tôt de votre endométriose?
Alors non, malheureusement, on ne peut pas dire ça. Parce que moi, j'ai été diagnostiquée très tard. D'ailleurs, peu avant que j'intervienne sur Beurre FM. Donc
j'ai cru que vous aviez 16 ans quand on vous a diagnostiqué.
Non, en fait, moi, j'ai eu mal dès mes 16 ans.
Ouais.
Et en fait, on l'a diagnostiqué à 35 ans, 36 ans.
D'accord. Et donc, finalement, quand vous aviez mal à 16 ans, comment on vous traitait?
Bon, alors déjà, ça a été compliqué parce que moi, je n'avais pas la possibilité de discuter avec ma mère de ces problèmes-là. Donc, on m'a envoyé voir une endocrinologue qui m'a mis sous une pilule qui est interdite à la vente aujourd'hui, c'est la Diane 500. Et vu qu'elle ne me convenait pas, on a fini par me mettre sous l'uténil, qui est un espèce de traitement qui met sous ménopause artificielle sans jamais m'expliquer ce que c'était, jusqu'à ce que je sois obligée de l'arrêter en urgence, parce qu'apparemment c'est un médicament qui pose des problèmes de méningiome au cerveau, et que normalement on donne pas plus de 4 mois, et que moi j'ai pris pratiquement pendant 20 ans.
Qu'est-ce qu'on vous a dit à l'époque? Enfin, quand on vous a mis sous traitement, on vous disait quoi?
On me disait rien.
D'accord.
On m'a strictement rien dit, à part que c'est normal, il faut que j'arrête de faire ma douillette et ça va bien se passer.
Mmh. Et puis vous avez décidé de l'arrêter du jour au lendemain, ce traitement?
J'ai pas eu le choix, parce que ma santé était en danger. Et depuis, on a essayé tout un tas d'autres traitements sur moi, de l'implant, d'autres pilules microdosées, et je n'ai jamais supporté ces traitements hormonaux. Donc j'ai dû tout arrêter du jour au lendemain.
D'accord. Et de vous réapproprier votre douleur, c'est ça?
Ouais, moi je sais pas si on se la réapproprie, mais en tout cas elle a fini par reprendre le dessus sur ma vie. La douleur, la fatigue et tout ce qui va avec.
Comment vous pouvez décrire, Jen, l'impact que l'endométriose a eu sur votre carrière et sur votre vie de championne?
Alors en fait, tant que j'étais sous l'uténil, je pense que ça a régulé pas mal mes hormones, donc ça allait. Et le jour où j'ai dû arrêter, j'ai dû mettre un terme à ma carrière.
Quand vous étiez en activité, vous en parliez à des docteurs, à des membres de l'encadrement ou pas du tout?
Non, c'était extrêmement tabou, déjà d'une. De deux, dans les équipes de France où j'étais, il n'y a jamais eu de rendez-vous avec des médecins. Et dans les clubs, les coachs sont pas du tout formés et au contraire, ils ont énormément d'a priori. C'est le genre de personne qui, quand une nana arrive et qu'elle a un peu de mauvaise humeur, vont lui faire la réflexion du genre « t'as tes règles ».
Je vais vous dire un truc à Freud, Jeanne, hein, vous m'envoyez balader. Hein, si vous êtes, est-ce que cette douleur vous a rendu plus forte?
Ah bah bien sûr, moi je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui sans m'être construite avec toutes ces douleurs. Voilà, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré la douleur, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en mettant en année sabbatique au niveau de l'éducation nationale et que j'arrive à surmonter tous les obstacles grâce à la force que ça m'a forgée, en effet.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous donnez des conférences, et notamment vous parlez d'endométriose et de la vie en entreprise, un petit peu partout en France. Vous dites qu'il y a toujours un tabou des menstruations dans le sport.
Alors, il y a toujours un tabou. Maintenant, ça commence à se lever. Alors, d'une, parce que il y a enfin des scientifiques qui font des études en prenant pour sujet des femmes. Parce que pendant très longtemps, quand on étudiait la performance ou quoi que ce soit dans le sport, on prenait uniquement des sujets masculins. Donc forcément, si on ne prend pas en compte le cycle hormonal, chez les femmes, le cycle de performance ne peut pas être le même. Notamment une étude qui est faite actuellement à l'INSEP. Et deuxièmement, parce que des sportifs comme moi, avec une plus grande notoriété, ont commencé ces deux dernières années à lever les tabous et à en parler. Et exactement de la même manière qu'elles le font aussi avec la maternité. En disant, en fait, il faut arrêter de mettre des tabous partout. Et si on apprend à connaître son cycle, on sera beaucoup plus performante. Et il y a quelques années, si je peux me permettre, il y a l'avant-dernière Coupe du Monde de foot, on a demandé à l'équipe américaine qu'est-ce qui avait fait qu'elles avaient été aussi performantes tout au long de la Coupe du Monde. Et les coachs ont répondu, mais parce qu'on a pris une équipe de médecins qui ont travaillé sur le cycle menstruel de nos athlètes. Et du coup, on a commencé à dire, ça pourrait être intéressant de le généraliser.
C'est ça qu'il faut populariser comme idée, finalement, c'est la prise en compte du cycle. Donc, déjà dans les programmes d'entraînement, par exemple.
Oui, c'est ça. Moi, il y a quelques semaines, j'étais en Algérie, justement, au comité olympique algérien, pour faire une conférence sur l'impact du cycle menstruel et expliquer, en fait, que quand il est bien maîtrisé, ça devient un atout à la performance, plutôt qu'un blocage ou autre chose. Et ça, j'en avais discuté avec le docteur Schwitter, qui est la présidente adjointe du comité olympique, lorsqu'on s'était croisé en France. Et qu'elle m'avait demandé on avait discuté d'une combattante, d'une jeune Algérienne qui sera aux Jeux Olympiques, sur comment on pourrait améliorer sa préparation physique.
Et quels sont les messages que vous faites passer à destination des femmes en entreprise, par exemple?
Qu'une bonne gestion de son cycle menstruel et le fait de bien connaître son cycle. Donc moi, je distribue des calendriers, par exemple, pour analyser son cycle. Ça va permettre d'être beaucoup plus performante en entreprise. Un des freins qui fait que les femmes n'arrivent pas à dépasser les plafonds de verre, c'est justement qu'elles sont pas en adéquation avec leur cycle menstruel. Et très souvent, elles vont prendre des décisions ou elles vont se surcharger de travail à des périodes pendant lesquelles, hormonalement, elles ne devraient pas le faire. Et très souvent, quand je discute avec elles de prises de décisions qui ont été catastrophiques dans leur carrière, ou dans leur évolution au sein de l'entreprise, et qu'on regarde par rapport au planning, ça correspond très souvent à des périodes du cycle où elles n'étaient pas les plus performantes.
Alors, oui, Nathalie.
Non, tout ce que dit Jen est vrai, enfin, ça recoupe les autres témoignages qu'on a dans Do Girls.
Il y a des entreprises qui ont donné des jours, on va dire, de congés menstruels à leurs salariés. Ça se développe?
Oui, ça se développe, il y a une vraie prise en compte et c'est en train de se généraliser. Maintenant, les seuls qui bloquent, ce sont c'est nos gouvernants. Voilà, on a bien vu que même en les amusant avec des petites sondes pour leur faire sentir la douleur, c'est comme s'il y avait besoin d'être empathique envers la douleur pour la comprendre, même ça n'a pas changé les choses. Je crois qu'il faut que cette prise de conscience nationale, elle se développe de plus en plus et que les dirigeants comprennent en fait que c'est un sujet de santé et qu'il faut vraiment le prendre à bras le corps, parce qu'on va pouvoir aider un tas de femmes à mieux vivre. Aujourd'hui, l'endométriose, moi, aucun de mes traitements, par exemple, n'est remboursé par la sécurité sociale. Et ça, c'est pire que de ne pas pouvoir demander de.
C'est-à-dire, alors, je suis désolé de vous poser la question, mais ça vous coûte combien par mois?
Entre les séances d'ostéopathie à 100 euros, les séances chez la gynéco pour faire de la photobiomodulation, les traitements antidouleurs. J'en ai pratiquement pour 300-400 euros par mois.
D'accord. Pas de prise en charge par la sécurité sociale?
Non. Non.
On en parle dans Do Girls. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques mois qui dit qu'il y a en moyenne 120 euros de reste à charge. Bon, là pour JN, c'est plus. Il y a un reste à charge de manière quasi systématique pour les femmes qui souffrent d'endométriose.
D'accord. Mais là encore, vous avez pris en charge votre maladie avec des méthodes plutôt novatrices.
Oui, alors moi, c'est vrai que j'ai la chance quand même de travailler avec beaucoup de médecins. J'ai un comité scientifique aussi au sein de mon entreprise pour traiter de ces questions-là. Donc du coup, moi, j'ai la chance d'avoir un accompagnement avec des techniques qui sont loin des techniques médicamenteuses, mais qui, pour le coup, ne sont pas remboursées et coûtent un peu plus cher.
Alors c'est vrai que les patientes continuent de réclamer la fameuse inscription de l'endométriose sur la liste des affections ouvrant droit à une ALD, donc ALD, affection longue durée, 30, oui. Ou 31, ce qui permettrait de...
Alors 31, c'est le cas. On peut obtenir une ALD 31 si votre dossier est accepté par le médecin de la Sécu. L'ALD 30, ça serait généralisé.
31, est-ce que vous êtes prise en charge à 100%?
il y a une prise en charge si c'est validé par le médecin de la sécu.
D'accord.
Mais d'après ce que m'ont dit toutes ces femmes, c'est compliqué d'obtenir cette validation. Et d'une région à l'autre, les critères ne sont pas similaires. Donc, ce qui pose un problème d'égalité d'accès aux soins.
Et qu'est-ce que ça changerait donc le 30 et le 31? Le 30, c'est quoi?
C'est la généralisation. L'endométriose serait totalement remboursée, en fait.
D'accord.
Mais pour le gouvernement, actuellement, c'est non.
Ouais, bah, vu les mesures qu'ils ont prises sur la sécurité sociale en ce moment, je suis pas très sûr que ce soit la priorité.
Non.
Diane, vous vouliez dire quelque chose, pardon, vous avez coupé la parole.
Ouais, je disais, en fait, ce qui est complexe aussi, c'est que toutes les endométrioses ne sont pas détectables. Moi, par exemple, sur les IRM, on ne voit pas. Voilà, et à partir du moment où il n'y a pas d'image, où il n'y a pas de... C'est pour ça que le test salivaire, par exemple, peut être une bonne chose.
Alors, on en parle de ce test, JN, peut-être?
Oui, alors en fait, il y a un test salivaire qui a été mis par un laboratoire, donc c'est Zewig. Donc moi, je travaille en ce moment, je vais rencontrer justement le fondateur. Et en fait, c'est un test qui permettrait de détecter l'endométriose grâce à un test salivaire en très peu de temps, ce qui permettrait de réduire, parce qu'en fait... entre le moment où une femme commence à se plaindre de douleur et le moment où on diagnostique l'endométriose, très souvent le temps c'est 7 ans d'errance médicale. Là ça irait beaucoup plus vite et du coup on se poserait pas la question de dire oui mais sur les images on voit rien, est-ce que c'est vraiment l'endométriose? Moi par exemple c'est mon cas, quand j'ai fait la demande de dossier à LD, ça a été mais sur les images il n'y a rien.
Donc vous avez fait la demande du dossier mais il n'a pas été validé, c'est ça?
Non, moi mon dossier n'a pas été validé, non.
Oui, pour le test, pour compléter ce que tu dis, JN, il y aurait un résultat sous 10 jours. Donc effectivement, ça change quand même grandement la donne.
Alors ça change la donne, non pas par rapport au fait qu'on va trouver des solutions, etc. Mais
oui.
Déjà nous, pour les femmes, de se dire, waouh, en fait, c'est pas dans ma tête.
Mais oui, mais complètement. C'est hyper important.
Voilà, et ça fait partie du processus aussi pour accepter les choses, pour accepter de changer sa vie, pour accepter de changer son alimentation, ses habitudes, etc. Mais aussi pour arrêter de faire croire aux femmes qu'une femme, c'est normal qu'elle ait mal, en fait. Non, une femme, c'est pas normal qu'elle ait mal. Faut arrêter de généraliser et d'accepter cette douleur. Et puis, ça permettrait aussi de changer la donne au niveau de la sécu. Moi, ma sécurité sociale, c'est toujours celle de l'éducation nationale, c'est toujours la MGEN. Et la MGEN est souvent très en retard, beaucoup plus lente que la sécurité sociale classique.
MGEN, si vous nous écoutez, hein.
Hein,
voilà. Mais oui, mais enfin, je veux dire, on va vers une société d'économie, mais quand on voit ce que ça coûte finalement l'endométriose, et notamment en jour d'arrêt maladie, parce que ça coûte cher, ça serait peut-être intéressant d'une prise en charge, même si aujourd'hui on est d'accord, ça ne se soigne pas l'endométriose.
On n'en guérit pas.
C'est ça, on n'en guérit pas, mais ça changerait aussi beaucoup plus de choses. Parce moi je bosse souvent avec des entreprises où au début, quand ils embauchent un groupe de salariés qui a autant d'hommes que de femmes, des années plus tard, quand ils regardent ceux qui ont évolué au niveau des postes, dans 90%, ce sont des hommes qui ont évolué et pas les femmes. Et un des freins qui fait que ces femmes-là hésitent à postuler, bon, en dehors du syndrome de l'imposteur, etc., on va pas revenir dessus, c'est que certaines de ces femmes ont des problématiques comme celle-ci et du coup elles n'osent pas parce qu'elles se disent ouais mais j'ai beaucoup de jours d'absence, j'ai beaucoup de douleurs, j'ai beaucoup de machin, et donc je vais pas me permettre de me dire je vais essayer de postuler un poste à un niveau supérieur parce que au final elles ont peur de tout ça. Donc ça aussi c'est des freins qui font que les femmes n'osent pas et n'évoluent pas aussi rapidement dans les entreprises ou de se lancer dans l'entrepreneuriat.
Bon, comme vous, JN.
Exactement.
Bon, on vous retrouve sur les réseaux sociaux.
Ouais, à JN Academy, partout.
Bien, on vous suit, on like, on commente. Merci d'avoir été avec nous, JN. C'est un grand plaisir de vous entendre.
Merci, JN.
C'est un plaisir pour moi. Salut, Nathalie.
Merci. Et on continue de parler d'Endo Girls, le livre de notre invitée Nathalie André ce matin.
AVS revient dans un instant.
Leclerc, bonjour.
Bonjour, il paraît que vous avez d'excellentes asperges françaises en bottes.
Tout à fait, et c'est un vrai délice de saison.
Ok, mais pourquoi en bottes? C'est le printemps, moi j'ai sorti les sandales.
Vous pouvez même les déguster en tongs si vous voulez. Du 24 au 27 avril chez Leclerc, la botte de 500 grammes d'asperges blanche-violette origine France est à seulement 3,70€. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 7,40€ le kilo. Catégorie 1, calibre 16-22mm, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
actu, podcast, playlist. Retrouvez le meilleur de la radio sur l'appli Beurre FM, disponible sur Apple Store et Play Store. Beurre FM, bien plus qu'une radio. Beurre FM, la rediff. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, avec Nathalie André qui est notre invitée, je rappelle que vous êtes journaliste et que vous publiez Endo Girls, une enquête sans tabou sur l'endométriose et la santé des femmes aux éditions du Courrier, illustré par Violette Suquet. Alors, vous l'avez votre livre avec vous, la montrez-le à la caméra.
Voilà.
Puisque l'émission est filmée. Voilà, ouvrez les pages parce qu'en fait c'est un livre qui est vraiment illustré, donc c'est vraiment sympa, il y a un vrai boulot.
C'est un roman graphique, 9 témoignages.
Roman graphique, on dit maintenant.
Vous avez 9 témoignages de femmes, des femmes qui ont des âges différents, qui souffrent de symptômes différents. Donc ces témoignages sont illustrés. On avait JN en ligne, JN est l'une de ces 9 femmes. Et pour compléter ces témoignages, vous avez des interviews d'experts, radiologues pour parler du diagnostic, gynéco bien sûr, sages-femmes, puisque les sages-femmes interviennent
sont
dans la prise en charge.
Première loge,
carrément. Chirurgiens, parce qu'une partie des femmes sont opérées, algologues, médecins à la douleur.
Alors, est-ce qu'on continue à opérer ou pas aujourd'hui ?
Oui, mais moins. Le docteur Yvan que j'ai interviewé pour la BD le dit, ils ont revu en fait les chirurgiens leur pratique par rapport à l'endométriose. Il y a quelques années on opérait beaucoup plus, il y a des femmes qui étaient opérées à plusieurs reprises. Maintenant l'objectif c'est d'opérer une fois et de nettoyer bien nettoyer la zone pour que les femmes gagnent en confort de vie et pour que ça n'affecte pas leur fertilité.
C'est quoi la définition de l'endométriose ?
Donc c'est une maladie gynécologique chronique inflammatoire qui, on l'a dit, touche entre 10 et 20% des femmes en âge de procréer. Le chiffre officiel, on va dire, celui qui est donné par le ministère de la Santé, c'est 10, mais plusieurs études, plusieurs experts le disent, c'est plus en fait. Le docteur Éric Petit, radiologue, qui est sûrement le plus grand radiologue, enfin le meilleur expert de l'endométriose en termes de radiologie en France, le dit, c'est minimum 15%, voire 20%.
Et sur la radio, qu'est-ce qu'on voit alors ?
Eh bah, déjà, il faut savoir la lire en fait. Le problème du diagnostic, c'est ça. C'est que tous les radiologues ne sont pas capables de lire ces imageries. Il y a très peu d'experts en France qui sont capables de le faire. C'est une maladie complexe. Le docteur Petit, donc je le disais, qui est un expert de la maladie, lui, ça fait des décennies qu'il s'intéresse à la maladie, bien sûr, qui sait lire ses imageries. Il essaie de former des jeunes à cette pratique, mais c'est un apprentissage compliqué, donc c'est compliqué en fait. Et en plus, pour certaines femmes, et c'est le cas de JN, ça se voit pas forcément sur les imageries. Pour des femmes, c'est flagrant. En fait, le problème de l'endométriose, c'est ça. La diversité des symptômes. Certaines ne souffrent pas, mais ne ressentent pas des douleurs, mais sont victimes d'endométriose quand même. Certaines ont des douleurs atroces, mais ça va se voir difficilement sur les imageries. La maladie est hyper complexe.
Et comment on finit par poser justement un diagnostic ?
Par la lecture des imageries. Mais le docteur Petit.
Il n'y a que l'imagerie qui peut valider une endométriose.
Il
n'y
a pas que ça. Le docteur Petit le dit, en fait, prendre le temps de questionner les femmes. Il y a des questionnaires qui existent. Si les femmes cochent toutes les cases, on peut arriver à la conclusion qu'elles souffrent d'endométriose. Et le docteur Petit, au cours de nos échanges, il me l'a dit plusieurs fois, une jeune fille une adolescente qui loupe le collège ou le lycée, parce qu'elle est pliée en deux dans son lit, elle est incapable d'aller en cours. Rien qu'à partir de ça, on peut supposer qu'elle souffre d'endométriose. Une gamine de 14 ans va pas feindre.
C'est pas quelqu'un qui veut pas aller en cours.
Non. Si elle est pliée en deux, incapable d'aller en cours, il faut vite se poser des questions.
Beaucoup d'hommes ne comprennent pas, parce que c'est une douleur qu'ils ne ressentent pas. Ils ont du mal à imaginer ce que ça peut être.
Oui et non. Enfin, au cours des dédicaces, on a été surprise quand même avec Violette Suquet. On a beaucoup d'hommes qui viennent. Ce sont des papas, ce sont des petits copains, ce sont des frères. Les hommes commencent à s'intéresser à la maladie. Ils sont quand même grandement concernés. Ils le vivent pas directement. Mais ils sont soit mariés à ces femmes qui souffrent, c'est soit leur père, enfin, ils les voient souffrir, ces femmes. Il y a quand même, ils commencent à se poser des questions et on les voit et ça nous fait grandement plaisir, en fait, de discuter avec eux, de les rencontrer.
Alors, on a l'impression que c'est une maladie nouvelle, hein, maladie à la mode, mais c'est une maladie qui existe depuis l'Antiquité, qui est connue depuis l'Antiquité.
Dans les écrits des Égyptiens, il était fait référence à ces symptômes-là. Donc, les Égyptiens. Donc, c'est pas hier matin, ça date.
Ouais.
Sauf que pendant très très longtemps, ça a été pris pour de l'hystérie à la Renaissance.
Alors, c'est Galien lui, une autre figure de la médecine antique, qui avait fait l'association entre l'endométriose et l'hystérie.
Oui, et après, si on va plus loin en termes de chronologie, il y a des femmes pendant la Renaissance qui ont été envoyées au bûcher, puisque elles étaient tordues de douleur, on pensait qu'elles étaient possédées, donc elles étaient des sorcières, donc elles ont été brûlées. Et en fait, une partie de ces femmes souffraient d'endométriose.
Alors, il y a beaucoup de découvertes qui datent des 19e et 20e siècles, mais qui sont restées dans l'ombre, finalement, qu'on n'a pas exploitées.
Alors, pourquoi ? On s'est posé la question. L'endométriose est une maladie féminine. Il y a beaucoup de nos interlocuteurs qui nous ont dit, si l'endométriose avait été une maladie masculine, peut-être qu'on serait à un autre stade.
Et elle a été nommée en 1927. Donc, là aussi, ça va faire 100 ans qu'elle a été nommée quasiment, donc voilà, rien
oui,
de...
Et elle n'est enseignée, on le disait tout à l'heure, en faculté de médecine que depuis 2020.
Ce qui est peu connu, c'est, et que vous avez commencé à en parler tout à l'heure, c'est l'endométriose des adolescents.
Ouais.
Ouais. Pourquoi c'est méconnu, finalement ? Parce qu'on l'associe à la douleur des premières règles ?
Oui, des femmes d'autres générations, on leur a dit que c'était normal d'avoir mal pendant les règles. Eh ben non, en fait. Moi, je ne souffre pas d'endométriose pendant mes règles. J'ai une gêne. Je n'ai pas de douleur. Ce n'est pas normal d'avoir mal. On l'écrit, nos experts le disent dans Endo Girls. Avoir mal, ce n'est pas normal. Donc, on consulte. Et si on ne trouve pas un médecin à l'écoute, on va voir quelqu'un d'autre. C'est pénible, parce qu'on aimerait faire autre chose. Mais il ne faut pas rester sur ce médecin qui vous dit c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Et on le disait tout à l'heure, une gamine qui est pliée en deux et qui ne va pas à l'école, à moins qu'elle soit très très feignante, il y a un problème, en fait. Il faut s'y intéresser assez vite.
Bien, les femmes aujourd'hui sont-elles mieux prises en charge, d'après votre enquête ?
On l'espère.
Non, mais ça c'est pas une réponse.
je ne suis pas dans tous les cabinets médicaux.
Non, mais bon, il y a eu un plan national. Est-ce que finalement, même régionalement, il y a un référent endométriose par département?
Alors, ça se met en place. Il y a des filières régionales. Ça fait partie de la stratégie nationale déployée par, abordée par Emmanuel Macron en janvier 2022. Ça se met en place. Après, vu la quantité de femmes énormes qui souffrent d'endométriose, il va falloir du temps pour que toutes ces femmes soient prises en charge. L'endométriose n'est enseignée que depuis 2020. Donc, ça fait 4 ans. Les étudiants à qui on a parlé d'endométriose en 2020, ils sont sûrement encore en faculté ou en internat. Voilà, ça se met, ça va de mieux en mieux, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps.
Alors, l'endométriose est une maladie inflammatoire. Il y a eu beaucoup de livres sur, enfin, en tout cas, beaucoup de livres et d'articles sur l'alimentation anti-inflammatoire
oui.
De l'endométriose.
Oui, c'est quelque chose qu'on aborde dans Endo Girls. Ça peut aider certaines femmes, le fait de changer de régime alimentaire. Après, la diététicienne qu'on a interviewée le dit, ça marche pour certaines femmes, pas pour d'autres, c'est à tester. ça fait partie des choses qui peuvent aider à aller mieux. On le disait avec Jian tout à l'heure, on ne guérit pas l'endométriose, donc faut essayer de trouver des astuces, mais des choses qui peuvent vous aider à aller mieux en fait.
Par contre, ce qui fonctionne, c'est ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique du patient, l'ETP.
Oui, alors ça, oui, alors ce qu'on a au cours de l'enquête, on nous a dit effectivement que ça pouvait être positif. Le problème, c'est que c'est peu développé. Il y a peu de programmes qui existent en France. Donc forcément, vu le nombre de femmes qui souffrent d'endométriose, elles ne sont pas toutes prises en charge par ces programmes. Mais c'est quelque chose qui est amené à se développer, et notamment sous l'impulsion des associations de patientes.
Alors, il y a une réflexion, savoir est-ce qu'on doit le dire en entreprise ? Parce qu'effectivement, certaines femmes, vous le disiez tout à l'heure, souffrent entre 1 et 20 jours par mois. C'est compliqué parfois d'aller travailler tellement vous êtes plié en deux. Est-ce qu'il faut le dire en entreprise ou pas ?
C'est une vraie question. Il faut voir à qui on a affaire, quels sont nos supérieurs hiérarchiques. Après, l'un des interlocuteurs, et Yasmine Kando, présidente d'Endo France, en parle dans la BD, c'est la médecine du travail. La médecine du travail est soumise au secret médical, donc si on leur en parle, ils sont pas censés venir le répéter dans la minute à votre responsable. Après, faut-il que ces médecins aient été formés à l'endométriose aussi ? Donc c'est un peu parfois un cercle vicieux. Mais l'un des interlocuteurs des femmes, ça peut être la médecine du travail.
Vous ne seriez pas d'être mis de côté finalement si vous parlez de votre endométriose ?
C'est vraiment, ça repose sur un choix personnel. On va pas dire aux femmes, parlez-en dès lundi à votre employeur.
Vous prenez beaucoup l'exemple de femmes qui ont tenté finalement l'entrepreneuriat parce que c'était plus adapté.
C'est le cas de Jeanne. On peut adapter son emploi du temps à sa douleur. Après, c'est sûr, l'auto-entrepreneuriat peut poser des problèmes de précarité. C'est le choix qui est fait par une partie des femmes.
La suite est dans votre livre Endo Girls, une enquête sans tabou sur l'endométriose et la santé des femmes aux éditions Le Courrier. Livre illustré,
roman graphique.
Ouais, c'est un roman mais inspiré de faits réels quand même.
Ah mais c'est, toutes ces femmes existent, voilà. tous ces experts
existent. Tous les gens qui sont dans votre livre existent vraiment.
Mais bien évidemment.
Merci d'avoir été avec nous, Nathalie.
Merci.
Vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Très belle journée. Santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.
Ya llegó el fin de semana, prendas de marca italiana. Voy a pescar con la plebada y nunca me llega sana. A veces alcohol, a veces blanca, pero siempre marihuana. De Marruecos es el hachí y ella es sudamericana. Va a romper la discoteca, teca, 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 teca. Va a romper la discoteca, teca, 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 teca. Va a venir toda la discoteca, teca, 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 a romper la discoteca, teca, 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 a romper la disco, la, 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 va a romper la disco, la, 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 va a romper la disco, la, contra la puerta y se roba el show, me vuelve loco bailando el dembow, no es de la calle, but baby, you know, siempre estoy high y ella está low, vamos pa' encima cambiando de clima, tu boquita aquí, tus ojos en China, yo sé que tú no tienes disciplina, si vamos a hacer algo traje vitamina, como me mira, super picante como de Argentina, cara de modelo, cuerpo de asesina, divina, tiene 10 cargos encima, va a romper la discoteca, teca, 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 va a romper la discoteca, teca, 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 va a venir toda la poli pa' sacarnos, estamos los de fumeteo, gin and tonic, va a romper la discoteca, teca, 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 va a romper la discoteca, teca, 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 va a romper la discoteca, la, 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 va a romper la discoteca, la, 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 va a romper la discoteca, la, la, la.
وقتي خلاني نجري غدروني في ظهري وقت اللي بنتي في حجري كله للعائلة حتى شي ما فات كيت صغير كيف ما عملتش حفلات زقنا في ورطة دورو تحت الكرطة لا ثقة في عهرة ولا ثقة في صحبة غلطة جيور الشرطة أصحابي متورطة لا ثقة في عهرة ولا ثقة في صحبة غلطة حيتهم معاودة ما تزيد القوف بخوري ضحكتهم الصفرة شفناها في ستوري عارفها والماشية عارف بالضبط أموري ميما عم سوري نعمل اللي في مقدوري فقنا بيهم شي ما عاد يكلميني بلاد مسخة ربي حاميني تلسيت عصيتي حبو كان شويطيني نكميم الهم نحب نرجع روتيني فقنا بيهم شي ما عاد يكلميني بلاد مسخة ربي حاميني تلسيت عصيتي حبو كان شويطيني نكميم الهم نحب نرجع روتيني شعال ونمشي ان شاء الله ما نبهمشي احكي مع علي يحكي لي في الناس ويمشي ونبش نمشي حلمه وما نسلمشي تعدى ومشي والراجل ما يفلمشي صورتنا واضحة قلعنا باينة جبناها صغار وين في عين الناس الخاينة والهز وخاينة جحنا وجبنا باينة حرك لجناب شي بعشق ما تقول له ماينة بجري في طريق فيها حفرة نحبني فيتي بعف الهم والفرحة اللي مليا بيتي نكمس عيب نبرة وندور في اللاسيتي جيت خزمة سيتي زورها ونكيتي فقنا بيهم شي ما عاد يكلميني هاتم الصغر ربي حاميني تلزيت عصيتي حبو كان شويطيني نكميم الهم نحب نرجع روتيني فقنا بيهم شي ما عاد يكلميني بلاد مسخاغ ربي حاميني تلزيت عصيتي حبو كان شويطيني نكميم الهم نحب نرجع روتيني
FM. Toujours plus de hits. Peur FM.
De la musique et encore plus de musique.
fais tic-toc, tic-toc, ça la moelle va. Fais tic-toc, tic-toc, pour un alpha. Fais tic-toc, comme le mec, c'est joué, c'est un terminator. Michi et Pia, c'est un escalator. Mais le mec, c'est un minuit, il roule et explore.
Plus de musique sur Beurre FM.
Beurre FM, Beurre FM. Il est 6h. 6h, 7h. Génération Beurre FM. Génération Beurre FM. Qui ont bercé toute une génération.
Ibrahim,
l'émission Beurre FM. Le son sur Beurre FM.
Tu es fada, je crée des gueules. Je comprends tous ici une parole.
Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid. Ils scrutaient la salle à nos trois quarts en cul roulé autour du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins, des buloni. Dès qu'ils passaient, Caméo, Midnight Star, SOS Bond, Delegation ou Chalamar. Tout le monde se levait, des cercles se formaient. Des concours de danse, on peut partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le temps. Via planète Marseille, je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia jusqu'à ce que la soirée vacille. Une bagarre au fond et tout le monde s'éparpille. On râlait que c'était nul, que ça craignait. Le samedi d'après on revenait tellement qu'on s'emmerdait. J'entends encore le rire des filles qui assistaient au palais. Des Renault 12 sur le parking. À l'intérieur, pour elles c'était moins rose.
Oh cousine, tu danses ou je t'explose.
Voilà comment tout s'aggravait. En un quart d'heure, le frère aura piqué.
Oh, comment tu parles à ma soeur.
Viens avec moi, on va se filer. Tête à tête, je vais te fumer derrière les cyprès. Et tout s'arranger ou se régler à la danse. L'un disait fils, y'a aucune chance. Et les filles, mes chaussures brillent. Hop, attends, je brille. Je te bousille, tu te rhabilles. Et moi, je danse le Mia. Comme les voitures, c'était le défi K8-73. JM 120, mon petit. Du grand voyou à la plus grosse moquette. La main sur le volant, avec la moquette. Par un soleil pionnier sur le pare-brise arrière. Dédé et Valérie écrit en gros.
Sur mon père.
La bonne époque où on sortait la 12 sur Magic Touch. On lui collait la bande rouge à la Starsky Hutch. J'avais la nuque longue, Eric aussi, Malek, Coco, la coupe à la marre, les Pascal et Pirasta, des afros sur François et Joe. Déjà à la danse, à côté de personne ne touchait une fille. On dansait le Mia.
Je danse le Mia.
Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia.
En direct sur Radio Chacal, en duplex live avec le Star Flash Laserlight Action Club, c'est tout de suite 3, 2, 1, DJ.
Ah, merci à toutes et à toutes d'être avec nous ce soir encore. New Star Flash Laserlight Action Club. Nous sommes ensemble ce soir pour une soirée de bonheur musical avec un grand concours de danse. De nombreux super cadeaux pour les heureux gagnants. Il y aura les shots Malboro, les autocollants pionniers, des cassons JB, des Beluches. À la technique, c'est Michel. Le light choqué, c'est Momo. On monte sur les tables, on lève les bras bien haut. Allez, c'est parti.
Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia, pas de pacotille. Chemise ouverte, chaîne mort qui brille. Des gestes lents, ils prenaient leur temps pour enchaîner les passes qu'ils avaient élaborées dans leur quartier. C'était vraiment trop beau, un mec assuré, tout le monde criait. La piste s'enflammait et tous les yeux convergeaient. Les différences effacées et des rires éclatés. Beaucoup disaient que nos soirées étaient sauvages et qu'il fallait entrer avec une batte ou une hache. Foutaise, c'était les